Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Mon nom est Luc Desormeaux et cette semaine, je serai seul pour animer l'émission du 26 janvier 2018. Malheureusement, notre ami Marc a eu un petit problème de santé et est présentement hospitalisé. Là, je veux pas énerver personne, Marc va bien, mais dans la nuit de lundi à mardi, Marc a eu un petit malaise et a dû être hospitalisé. Donc, il a malheureusement fait le voyagement entre chez lui et l'hôpital dans une ambulance, et ce, dans la tempête de verglas qu'on a connue ici au Québec. Et puis, tout ça pour apprendre que Marc avait fait une petite crise cardiaque et a dû être opéré pour finalement débloquer une de ses artères. Donc, à l'heure où on parle, Marc est hospitalisé, il est à l'hôpital, et devrait sortir, si tout va bien, à la journée où le podcast va sortir, donc vendredi. Donc, on lui souhaite un très prompt rétablissement et j'espère qu'il va bien aller. J'ai très, très hâte de lui reparler. Si ça vous dit, ben, allez faire un petit tour sur notre page Facebook et souhaitez-lui un prompt rétablissement. Je suis sûr que ça va lui faire beaucoup, beaucoup plaisir. Donc oui, cette semaine, je vais être seul, mais j'ai quand même assez de sujets. On va commencer avec les choix de l'Ajac. Il y a eu les finalistes pour chaque catégorie qui a été annoncée. Puis au Salon de Montréal, ben, l'Ajac a annoncé aussi les gagnants de chaque catégorie. Donc je vais passer à travers ça avec vous. J'ai aussi Martin Archambault de l'AVEC qui va venir parler voiture électrique avec moi. Et puis on va terminer avec mes essais de la semaine. Je vais faire deux essais cette semaine. Donc je vais vous parler de deux voitures que j'ai essayées. Une pendant le temps des fêtes, une un petit peu après. Donc la voiture que j'ai eue pendant tout le temps des fêtes, c'était la Hyundai Elantra GT, donc la version hatchback de la Hyundai Elantra, et puis aussi la toute nouvelle Toyota Camry. Donc, je vais vous parler de ça à la fin de l'émission. Comme je vous dis, il est très possible que l'émission soit un peu écourtée, mais on ne le sait jamais. Des fois, je parle beaucoup, puis ça va durer peut-être le temps que ça devrait. On verra ça d'ici la fin. Donc, on va commencer par la liste des voitures que l'Ajac a données comme étant les finalistes dans chaque catégorie. Comme vous savez, j'ai été au Festival des essais, qu'on appelle le Test Fest au mois d'octobre, où on essayait beaucoup, beaucoup de voitures. Et c'est là que, bon, chaque journaliste a essayé une panoplie de voitures dans chaque catégorie dont il était responsable de voter. Et puis après ça, l'Ajac ramasse tous les résultats, donne ça à une firme, eux autres compilent les résultats et ensuite vont donner les trois finalistes dans chaque catégorie. Donc, si on commence, on va y aller avec la catégorie de meilleure citadine au Canada pour 2018. Ben, les trois finalistes étaient la Hyundai Ioniq électrique, la Nissan Micra et la Volkswagen e-Golf. C'est quand même bien de voir que sur trois voitures, il y a deux voitures électriques qui sont dans cette catégorie-là. Et la gagnante, c'est la Volkswagen e-Golf dans cette catégorie-là. Donc, la e-Golf va pouvoir compétitionner pour devenir voiture canadienne de l'année de l'Ajac. Donc, elle est dans les finalistes. Pour l'autre catégorie, meilleure petite voiture, on a la Bolt EV, une autre voiture électrique. On avait la Hyundai Ioniq hybride ou hybride rechargeable. Donc, une autre voiture avec de l'électrification. Et puis, la dernière, c'était la Mazda 3. Et la gagnante de la catégorie, sans vraiment de grande surprise, même si les autres voitures sont très très bonnes, c'est la Mazda 3 qui a gagné. Donc, elle va aussi compétitionner pour être voiture de l'année. Dans les grandes voitures, on avait trois voitures qui sont de bonnes compétitrices, des voitures qui sont quand même de taille. On a la nouvelle Honda Accord, on avait la Mazda 6 et puis la Toyota Camry. Et, ben, sans vraiment grande surprise, mais quand même, je m'attendais peut-être que ce soit plus la Camry. C'est la Honda Accord qui a remporté cette catégorie-là. Donc, encore une fois, elle va être bonne pour compétitionner pour la voiture de l'année au Canada. Meilleure voiture de l'année au Canada. Pour meilleure petite voiture de luxe, on avait la Alfa Romeo Giulia, la Infiniti Q50 et la... pas Q50, la Q60 et la Jaguar XE. Et la gagnante, Jaguar va être très heureux, c'est la Jaguar XE qui a gagné. Voiture que j'ai essayée récemment, que j'ai beaucoup aimée. Est-ce que personnellement, je la trouve vraiment meilleure que la Q60 de Infiniti? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est une voiture qui était très intéressante. En tout cas, avec ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, Jaguar qui aussi remporte ça dans cette catégorie-là. Ensuite, meilleure grande voiture de luxe. On a la Genesis G80. Une Genesis qui commence à faire des voitures, là, qui est la marque premium de Hyundai. Donc, c'est comme leurs premiers essais. Et c'est quand même bien d'être dans la liste des meilleures voitures de cette catégorie-là. On a aussi la Lexus LC que j'ai vraiment adoré, qui est une voiture hybride, mon Dieu, assez sportive. C'est pas une voiture c'est pas une voiture quatre portes, c'est une voiture vraiment sport. Donc, je trouve ça un peu bizarre qu'elle soit dans cette catégorie-là quand même, mais c'est quand même pas elle qui a gagné. La gagnante, et c'est la dernière, c'est la Volvo S90 ou V90. Donc, la version berline ou la version wagon, donc la version à hayon. Et c'est ça, c'est elle qui a gagné dans la catégorie meilleure grande voiture de luxe. Si on va meilleure voiture sport de performance au Canada pour 2018, eh bien, Honda avait deux entrées, une avec la Honda Civic SI et l'autre avec la Honda Civic Type R. La Type R que j'ai essayée au Festival des essais et, ma foi, c'est une voiture assez incroyable. Même si on disait c'est une traction avant et tout ça, Honda a fait un travail colossal pour être capable de diminuer l'espèce d'effet de couple qu'on a dans des roues avant. Quand une voiture est traction avant puis qu'il y a trop de puissance, souvent ça saute et ça se contrôle pas très bien quand on essaie de trop pousser la voiture. Puis Honda avait réussi à faire un travail vraiment colossal pour vraiment minimiser cette espèce d'effet de couple-là. Et la dernière, la Volkswagen Golf R. Et puis, ben, la gagnante, c'est la Volkswagen Golf R, qui est une voiture de performance 4 roues motrices. Donc, Volkswagen va être très, très heureux de ça parce que la e-Golf et la Golf R sont dans les finalistes comme meilleure voiture au Canada. Donc, ça va être intéressant de voir si une de ces deux voitures-là va remporter le prix. Et puis, ensuite, meilleure voiture sport de performance, on a la Jaguar F-Type, qui est une magnifique voiture avec un son d'échappement assez grisant. On a la Porsche 718 et la Porsche 911. Et c'est drôle parce que la seule des trois voitures que j'ai pas eu l'occasion de conduire était la F-Type. Et puis c'est elle qui a remporté le prix de meilleure voiture de performance. Donc c'est vraiment une magnifique voiture, le design et tout ça. C'est vraiment, vraiment une belle, belle voiture. Ça doit être vraiment amusant à conduire. Je sais pas si un jour je vais avoir la chance de l'essayer, mais bon, c'est elle qui a remporté le prix. Ensuite, on y va avec la meilleure décapotable au Canada. Et là, il y a une gamme de prix quand même assez large. Là, on commence avec la Mazda MX-5, qu'on appelle aussi Miata. Pas de distinction entre la version RF, là, celle qui a un toit dur rétractable, ou celle vraiment convertible. Il y a pas, c'est, on mentionne juste que c'est la MX-5. Et puis après ça, la Mercedes-Benz SL et la Porsche 718 Boxster. Donc la Porsche 718 dans sa version convertible, donc la Boxster, ou dans sa version à toit dur, qu'on appelait auparavant la Cayman. Tous les deux étaient en lice. Et malheureusement, aucune des deux a gagné. C'est la Mercedes-Benz SL qui remporte le prix de meilleur décapotable au Canada. Si on va avec les utilitaires sport, on commence avec eux autres. Ces véhicules-là vont pouvoir gagner meilleur véhicule utilitaire du Canada. Donc, le premier, c'est le Honda CR-V. Ensuite, on a le Mazda CX-5. Et le dernier, c'est le Nissan Rogue. Et Mazda va être content parce que c'est le CX-5 qui remporte le prix de meilleur petit utilitaire au Canada pour cette année. Dans le grand utilitaire, parce que tout le monde sait, on a des petits et on a des grands, on a aussi des très petits, mais les très petits ne sont pas nécessairement, on n'a pas nécessairement de catégorie à eux pour cette année. Ben, on retrouve le Chevrolet Traverse que j'ai conduit au Festival des essais, que j'avais beaucoup aimé. On a le Mazda CX-9, puis on a le Toyota Highlander. C'est trois véhicules que j'ai conduits, le Traverse et le CX-9, je les ai conduits au Festival des essais. Le Highlander, je l'ai eu pendant une semaine et j'avais beaucoup aimé, très sobre quand même dans sa consommation d'essence et tout ça. J'avais vraiment aimé ce véhicule-là. Mais c'est le Mazda CX-9 qui remporte le prix de grand utilitaire pour 2018. Véhicule qui est très, très bien. Marc en a parlé. Si je me rappelle bien, c'est dans la dernière émission. C'est avec ça qu'il a passé son temps des fêtes. Il a beaucoup aimé. Sa femme était allée livrer des paniers de Noël avec ce véhicule-là, justement. Là, c'est un véhicule qui est très joli à l'intérieur, qui est très confortable, puis qui a encore l'espèce de petite sensation vroom-vroom que Mazda se met de l'avant pour un gros véhicule. C'est assez impressionnant. Donc, c'est lui qui remporte meilleur grand véhicule au Canada. Pour meilleur petit utilitaire de luxe, on a le Porsche Macan, on a le Range Rover Velar et le Volvo XC60. Le seul des trois que personnellement j'ai conduit, c'est le Porsche Macan, que j'avais beaucoup aimé. Et quand on le met en mode sport plus, ça décoiffe. Mais c'est le Range Rover Velar que Marc a conduit et que je vais essayer d'avoir dans les prochaines semaines ou mois, là. C'est un véhicule qui est disponible sur la flotte de Range Rover. C'est un très, très, très beau véhicule. J'ai juste manqué de temps pour aller le conduire au Festival des essais, mais il était sur ma liste de véhicules à essayer. Donc, je vais essayer de vous en reparler si je peux. Mais c'est lui le meilleur petit utilitaire de luxe au Canada. Si on va meilleur grand utilitaire de luxe, on a le Acura MDX, on a le Land Rover Discovery, puis on a le Volvo XC90. Moi, le seul que j'ai conduit, c'est le XC90, encore au Festival des essais. J'avais beaucoup aimé, très joli, en version hybride. C'était quand même très sobre comme consommation d'essence pour un véhicule de cette taille. Mais le gagnant, c'est le Acura MDX. C'est quand même bien pour Acura, parce qu'Acura, quand on regardait, on a parlé avec Marc à un moment donné, dans les satisfactions de la clientèle, puis dans les codes de fiabilité, Honda était très haut et Acura était très bas. Donc, ça va faire du bien si Acura peut remporter quelque chose comme prix de voiture ou grand utilitaire de l'année, utilitaire sport de l'année. On verra ce que ça va donner, mais au moins, ils sont dans la liste des gagnants potentiels. Ensuite, avant-dernier, on a meilleure fourgonnette au Canada pour 2018. Fourgonnette, il n'y en a pas une tonne, donc il n'y a pas nécessairement beaucoup de participants dans cette catégorie-là, mais on en a trois. On a le Chrysler Pacifica, on a le Honda Odyssey, et puis on avait le Kia Sedona. Et puis, ben, sans grande surprise, parce que il avait déjà bien fait l'an passé, mais c'est le Chrysler Pacifica qui a remporté le prix de meilleure fourgonnette au Canada. Le Pacifica qui est disponible en version régulière à essence, en version hybride, vraiment efficace. Je l'avais conduit pour une semaine, le Pacifica hybride. On pouvait le recharger, ça avait été vraiment bien. J'avais mis deux grands ados dans ça pour aller au Comic-Con et c'était vraiment bien, vraiment confortable. Puis la consommation d'essence avait été vraiment, vraiment bonne. Et le dernier et non le moindre, on parle de pick-up, de camion. On avait trois véhicules dans cette catégorie-là. Honda Ridgeline, le Ram 1500 et le Toyota Tundra. Deux véhicules que j'avais conduits, le Ram 1500 et le Tundra, je les avais conduits déjà. Le Ridgeline, je l'ai conduit là-bas. J'avais pas été impressionné par le Ridgeline, surtout par sa finition intérieure et tout ça. J'avais trouvé que pour un véhicule Honda à ce prix-là, c'est quand même un véhicule qui est assez dispendieux. C'était pas vraiment à mon goût. Pas que c'était un mauvais véhicule, mais bon. Et puis, le véhicule qui a gagné, le pick-up qui a gagné cette année, c'est le Ram 1500. Donc, c'est lui qui va aller compétitionner avec les autres VUS, là, pour véhicule utilitaire de l'année au Canada. Donc, ça fait pas mal le tour des prix. Les gagnants vont être annoncés au Salon de Toronto. Je pense que c'est le 15 février prochain, là. Ça va être annoncé par la JAC. Donc, on va, parmi toutes les véhicules que j'ai nommés, les voitures que j'ai nommées, il va y avoir une gagnante de voiture canadienne de l'année. Et parmi tous les véhicules que je vous ai nommés, là, des VUS et le pick-up qui a gagné, bon, ça va être le véhicule utilitaire de l'année. Ça va être dans ces véhicules-là. Ensuite, on va avoir aussi le véhicule vert de l'année. Ça va être annoncé un petit peu plus tard. Ça va être au salon de Vancouver, là, qui se passe un petit peu plus tard cette année. Donc, c'est pas mal ça pour le premier bloc. On va terminer là-dessus, puis on va rejoindre tout de suite Martin Archambault de l'AVEC pour notre chronique « Voiture électrique ». Alors, nous sommes de retour et on rejoint de l'AVEC M. Martin Archambault, notre spécialiste en voiture électrique. Salut Martin.
Salut monsieur. Ça va bien? Un spécialiste des trucs électriques pour être pogné dans une panne d'électricité.
Ouais, c'est ça. On fait ça directement de ton téléphone de maison parce que oui, tu n'as pas d'électricité en ce moment. Donc, ça va mal. On est un petit peu dépendant de ça, l'électricité. Hein?
Oui monsieur, on est un petit peu dépendant de ça. Fait que là, je suis dans le noir avec un téléphone qui date de 20 ans, mais c'est pas grave. On va parler de trucs modernes quand même.
C'est bon. Donc, on a deux sujets que tu veux couvrir. Un, c'est bon le tarif pour les ce qu'on appelle les BRCC, donc les bornes de recharge rapide pour les voitures électriques qui va augmenter. Et puis aussi, tu veux nous parler de voitures à hydrogène. Tu veux-tu commencer par les voitures à hydrogène?
Ben oui, donc, pas de problème, on peut commencer par ça.
Vas-y.
Ben tu sais, en fait, puis je sais que vous avez traité le sujet dans le dernier show, ça se peut, hein?
On a vaguement, on a effleuré le sujet, on n'a pas été en profondeur. Sujet,
c'est ça. Puis je connais un peu la position de Marc aussi, là. Moi et Marc, il y a un an, on est allé faire un essai routier de la Mirai ensemble. Donc, on a tous les deux conduit la voiture, puis on s'est partagé nos impressions à la fois sur le véhicule, mais également sur la technologie. Okay. Fait que je connais un peu la position de Marc. Je n'ai pas tout à fait la même position que lui, mais c'est pas grave, c'est ça qui est le fun dans la vie. On n'est pas obligé d'être toujours sans même longueur d'onde sur tout. Là.
Ce serait plate si on avait toutes la même opinion.
Oui, c'est ça. Ça avancerait pas bien les affaires.
Non.
Écoute, moi, ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, de vous parler un peu aujourd'hui, c'est évidemment, je représente l'Association des véhicules électriques du Québec, puis on s'est positionné très clairement, et ça, il y a déjà quelques années, par rapport aux voitures à hydrogène, sur le fait qu'on n'était pas pour cette technologie-là. Puis je veux quand même positionner, puis un peu la position, puis expliquer un peu là, les fondements derrière tout ça, puis je comprends qu'il y en a qui peuvent être pour, puis c'est bien correct. Là. On n'est pas contre les nouvelles technologies, puis les nouvelles façons de faire, puis tout ce qui permet de faire autrement, puis mieux, on ne peut pas être contre ça.
Fait que,
à la base, entre brûler 18 litres au 100 de pétrole ou de rouler à l'hydrogène, je pense qu'on est mieux de rouler à l'hydrogène. Le point n'est pas là.
Okay.
Pour nous, en fait, puis c'est une question de technologie puis une question de rendement énergétique, c'est-à-dire que l'hydrogène a un avantage qu'on reconnaît, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, faire le plein d'hydrogène, donc se donner, un 400 ou un 500 km d'autonomie dans un véhicule en faisant le plein d'hydrogène, ça va plus vite qu'en changeant des batteries, on n'est pas contre ça. Le problème, c'est qu'en fait, une voiture hydrogène, il faut comprendre que c'est en réalité une voiture électrique. Hein?
Oui.
C'est une voiture électrique qui, plutôt que de faire le plein d'énergie électrique dedans, on fait le plein d'une substance chimique qui est l'hydrogène, qui, par un principe là, électrochimique, va se trouver à alimenter en électricité la batterie, à recharger à alimenter électriquement un moteur électrique dans le véhicule pendant qu'on va rouler. Donc, on produit de l'électricité.
Ça, vous traînez, en fait, là, vous traînez votre propre petit barrage électrique avec vous.
Exactement.
C'est ça.
Et là où on voit un problème avec ça, c'est que, faut comprendre que l'hydrogène sur la planète, là, à 90% au moment où on se parle, c'est produit par décomposition du gaz, généralement le gaz naturel. Donc, quand l'hydrogène est produit à même la décomposition du gaz, on comprendra que du côté environnemental et avantage environnemental, on vient de le perdre en grande partie. Puis évidemment, là, dans le cas du Québec, on nous dit « ouais, mais attention, nous, on va essayer de le produire grâce à l'hydroélectricité », parce qu'il faut savoir qu'on peut produire de l'hydrogène aussi en faisant une décomposition par électrolyse. Là, on peut décomposer des molécules d'eau puis d'aller chercher l'hydrogène qui est dedans. Le problème, c'est que la quantité d'énergie électrique que ça prend pour être capable de créer l'hydrogène capable de faire avancer un véhicule sur une distance donnée, par exemple 100 km, ça prend trois fois plus d'électricité que l'électricité requise pour faire avancer une voiture 100% électrique normale sur le même 100 km. Donc, c'est trois fois moins rentable du point de vue énergétique. C'est sûr qu'au final, le consommateur qui va faire le plein d'hydrogène, qui met ça dans sa voiture puis qui roule, lui, il voit pas ça. Il réalise pas que pour être capable d'avoir une certaine quantité d'électricité pour faire 100 km, il comprend pas que ça a repris trois fois plus d'électricité pour produire cet hydrogène-là que l'électricité requise pour faire le même 100 km.
Ouais, parce qu'on a une perte. C'est un peu comme une voiture à essence aussi. Il y a une perte quand même assez énorme, là.
Il y a des pertes au niveau de la fabrication, de la production, puis il y a une perte au niveau du rendement dans le principe de création d'électricité à l'intérieur de la pile à combustible là, dans le véhicule. Fait que pour nous, c'est notre position et l'argent qu'il faut mettre. Il faut comprendre qu'une station-service, là, une pompe pour être capable de fioler à l'hydrogène, on parle là 2,5 à 3 millions pour une petite. On parle là, tu sais, de quelque chose comme 50-60 000 pour une borne de recharge rapide pour une auto électrique. Là. Vous me direz que c'est pas la même vitesse de chargement. C'est de un. De deux, des stations pour faire le plein d'hydrogène, il y en a une au Québec actuellement qui est à Trois-Rivières. Là, il y a un programme qui vise à en installer quelques-unes, mais ça reste qu'il va y avoir que quelques endroits où on pourra faire le plein. Contrairement à toutes les prises électriques de la province dans lesquelles on peut brancher une auto électrique actuellement, puis les plus de 2000 bornes de recharge disponible là, standard sur le réseau hydroélectrique d'Hydro-Québec actuellement. Donc, pour nous, c'est le problème, c'est que ça coûte tellement cher, il faut mettre tellement d'argent là que ça va freiner le développement de la voiture électrique qui est déjà, sur laquelle on est déjà en avance puis qui nous permet d'être parmi les grandes nations du monde là, qui nous tournons vers l'électricité. Là, évidemment, on n'est pas en avant de la Norvège puis tout ça, mais on est quand même, si on isole le Québec, là, le reste du Canada nous fait perdre un peu d'avance, mais si on isolait le Québec, si le Québec était un pays puis on le comparait aux autres nations, ben on est quand même dans les pays en tête. Là. Donc, il faut. Pour nous, c'est une question de priorité, en fait. Là, je pense que d'expérimenter, de regarder, c'est pas une mauvaise chose, mais de mettre énormément d'argent là-dedans puis de fonder des faux espoirs. Il faut savoir que la majorité des pays qui ont fait des tests avec l'hydrogène, y compris la Chine, hein, ont décidé de reculer puis de revenir et de mettre leur focus sur les voitures électriques. Alors, pour nous, c'est bien le fun. Ça répond au désir du gouvernement d'explorer les énergies alternatives, mais je pense qu'il ne faudra pas mettre trop d'argent là parce que j'ai l'impression que très vite, ils vont arriver au même constat que tout le monde. Le temps que ça va prendre pour rendre la patente rentable, on va avoir des voitures ou des camions électriques qui vont se recharger super vite et qui vont avoir beaucoup d'autonomie, fait que l'avantage sera plus réellement là.
Ah, c'est ça. Mais puis moi, l'autre désavantage que je vois d'une voiture à hydrogène, c'est que ça revient à avoir une voiture à essence. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que j'arrête à quelque part pour remplir la voiture, tu sais, mettre bon l'hydrogène au lieu d'essence, mais ça reste que faut que j'arrête à quelque part. La beauté d'une voiture électrique, c'est que j'arrive chez nous le soir, je la recharge, je repars le matin, puis elle est pleine. Puis, tu sais, si ça fonctionne avec mon trajet journalier, ben je fais mon aller-retour du travail, je reviens, je la rebranche, puis on recommence le lendemain. T'sais, la voiture hydrogène, va quand même falloir que j'arrête à une station à un moment donné pour remplir ce qui, m'arrête.
Une station, c'est le bon mot, il y en a juste une, là.
Non, c'est ça, t'as Trois-Rivières, ça fait loin pour aller faire le plein quand on reste dans mon coin, là. Mais c'est ça, moi, c'est un peu ce qui m'arrête d'être intéressé vers l'hydrogène, c'est que présentement, j'ai une voiture électrique, puis je trouve ça merveilleux de pouvoir juste la remplir chez nous, finalement. Là. Je la branche le soir ou je la branche quand je reviens, elle se remplit un peu, puis je peux aller faire d'autres commissions, ou le lendemain matin, elle est pleine, puis je repars. Il n'y a pas d'arrêt.
C'est un point qu'on néglige souvent, ce point-là, le point de l'infrastructure. Mais tu sais, il n'y a aucune infrastructure pour l'hydrogène et l'infrastructure électrique est déjà présente partout au Québec. Là, partout, je veux dire, il y a des lumières qui allument puis il y a de l'électricité. Tu es capable de mettre minimalement une prise sur le 240 volts et être capable de recharger au niveau d'une voiture. Puis la plupart des endroits où tu as une alimentation industrielle, comme les commerces, les centres d'achat, les haltes routières, bien, tu as de l'alimentation à plus haute tension qui permettrait de mettre une borne à recharge rapide. Donc, l'infrastructure est déjà toute là, puis est assez permanente. L'hydrogène, autant le réservoir dans le véhicule, le réservoir dans lequel on va entreposer l'hydrogène à la station-service, tout cet équipement-là, c'est un équipement qui a une durée de vie très limitée due à la pression à laquelle il faut mettre l'hydrogène pour être capable de l'utiliser. C'est des très hautes pressions. Ça fait que c'est un équipement qui a une durée de vie très courte. Donc, en plus de coûter une fortune, il faut le changer régulièrement. Puis, juste pour, à titre là, de petite statistique, là, au moment où on se parle, rouler 100 km à l'électricité, ça coûte à peu près 1,25 $ en coût d'énergie. À l'hydrogène, ça coûte 17,50 $. Faites le calcul, c'est plus cher que le gaz.
C'est ce qu'on parlait aussi justement au salon quand on était assis. On dînait, puis pendant qu'on dînait, c'était la présentation de Toyota. Puis on se disait, c'est combien faire le plein en hydrogène? Si ça revient à un montant plus cher que le faire à l'essence, les gens ne se tourneront pas nécessairement pour ça. Les gens vont se tourner vers une nouvelle technologie s'il y a un avantage pour leur portefeuille en même temps. Fait que là, parles non seulement la voiture va être plus chère, non seulement pour les débuts, je vais avoir de la misère à me trouver une station pour remplir ma voiture, mais en plus, si ça me coûte 2, 2,50, 3 $ le litre, ben là,
c'est un peu moins sexy.
En équivalent, là, c'est sûr qu'on calculera peut-être pas ça en litres. Peut-être que oui, là, mais tu sais, je veux dire, à l'équivalent, je veux dire, c'est moins intéressant. Là. Ça pousse pas les gens à changer de technologie juste pour ça.
Non, c'est bien sûr.
OK, c'est bon. Donc, on va voir ce qui va se passer. Là.
Ben oui, puis en fait, je trouve que ça fait une belle transition. On est là qu'on parle de prix pour rouler 100 km, on dit à l'électricité, on est 25. Moi, l'autre sujet dont je voulais te parler, c'était le prix aux bornes de recharge rapide. C'est un sujet d'actualité, là, au moment où on enregistre le podcast. On vient tout juste d'apprendre quelques jours à peine que le prix aux bornes, mais là, je tiens à mentionner, c'est aux bornes de recharge rapide du circuit électrique. Donc, c'est pas toutes les bornes de recharge rapide que le prix augmente, c'est celles du circuit électrique, mais c'est quand même eux qui ont la majorité au Québec actuellement. Mm-hmm. Et ce n'est que les bornes rapides et non pas les bornes standards là, de niveau 2. Ces bornes-là, c'est des bornes qui étaient, qui sont toujours parce que le changement de prix va être effectif le 1er février. Mais au moment d'enregistrer le podcast, on n'est pas encore rendu le 1er février. Là.
Non.
Donc, c'est des bornes qui sont à 10 $ de l'heure facturée à la minute. Ça veut donc dire que on est 15 minutes sans borne, mais ça va coûter, 3 $, c'est-à-dire 2,50 $ là, au moment où on se parle, ben, puis 5 $ pour une demi-heure, puis 10 $ pour une heure. Généralement, tout dépendant de la grosseur de notre batterie, là, comme ma voiture à moi, ben, tu sais, c'est quoi, une vingtaine de minutes quand j'arrête, là, puis je suis capable de faire le plein généralement, là, c'est à moins d'être vide, puis qu'il fasse froid, c'est un petit peu plus long, là,
ouais.
Mais me donner un ordre de grandeur. Donc, ce tarif-là horaire de 10 $ de l'heure facturé la minute passe à 12 $ de l'heure facturé la minute. Ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire deux choses. Il y a deux façons de le regarder. Là. La première façon pure et dure, c'est de dire que c'était 10 $ de l'heure, c'est rendu 12 $ de l'heure, donc c'est une augmentation de 20%,
mm-hmm.
ce qui est tout à fait vrai, finalement. L'autre façon de voir ça, c'est bien, ça dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait, mais il faut comprendre qu'une borne de recharge rapide, ça ne devrait pas être, en tout cas, à moins d'avoir une voiture qui ne correspond pas à notre rythme de vie, là, à l'utilisation qu'on en fait. Normalement, une borne de recharge rapide, c'est une borne qu'on utilise en dépannage à l'occasion, lors d'un long déplacement, par exemple, le long d'une autoroute, puis on fait plus long que l'autonomie de notre auto, on arrête là pour se recharger puis on continue, mais c'est pas notre quotidien. Si à tous les jours, on est obligé d'arrêter une borne rapide pour aller travailler puis revenir, clairement, on n'a pas choisi la bonne auto. Là. Le plein, on devrait le faire à la maison ou au travail, donc pendant que l'auto est en train de se reposer puis que nous autres, on fait d'autres choses, mais on devrait pas qu'une auto électrique est en train d'être assis dehors à regarder notre auto se recharger.
T'sais. Non, pas constamment.
C'est pas
c'est ça.
Bon, fait que si on l'utilise comme c'est supposé être, puis moi, je regarde dans mon cas le nombre de fois par année que j'arrête une borne de recharge rapide, c'est occasionnel seulement, ben ce qui me coûtait dans le temps, par exemple, si je restais une demi-heure, ça me coûtait 5 $, ben celle-là, ça va m'en coûter 6. T'sais. Fait que peut-être que les 10 fois que je vais arrêter sur l'année, ça va m'avoir coûté 10 fois 1 $ de plus, ça va me coûter 10 $ de plus à la fin de l'année. Fait que, tu sais, 10 $ de plus en énergie pour un an, juste au prix qu'est l'essence là, il y a bien du monde, ça lui coûte plus que 10 $ par plein actuellement, là, avec la hausse du gaz qu'il y a eu là. Fait que c'est deux façons de le voir. Faut juste comprendre, en fait, que c'est vrai de dire que c'est une hausse qui est quand même assez grande, selon moi. Le 20% d'une coche, c'est sûr que les gens qui font le calcul, ils disent, ben, il me semble que plutôt que de laisser ça stable pendant 4 ans puis monter ça de 20% d'une shot, il aurait peut-être pu monter ça d'une couple de pourcents plus graduellement.
Ouais.
D'un autre côté, l'autre façon de le voir, comme j'ai dit tantôt, ben, c'est que ça représente finalement, du point de vue financier, à moins de l'utiliser vraiment beaucoup, ça représente très peu d'argent au final qui va sortir de plus de nos poches. L'argumentaire du circuit électrique, c'est que l'équipement coûte de plus en plus cher, l'entretien coûte de plus en plus cher, puis les prix ont été fixes depuis 4 ans ou à peu près. Donc là, il est un peu normal d'aller rechercher un petit peu de financement là. Tu sais, moi, en fait, ma réflexion là-dessus, Luc, c'est plutôt de dire, puis je ne veux pas relancer l'éternel débat, mais le plan, la façon dont fonctionne le financement des bornes rapides au Québec, qui est une méthode où le circuit électrique paye la moitié de la borne rapide, puis ils doivent trouver un partenaire qui va accepter d'héberger et de payer l'autre moitié.
Mm-hmm.
C'est un modèle qui était bon pour démarrer, qui était bon pour partir la roue, mais qui ne peut plus être bon dans un modèle où le gouvernement prend une position officielle en disant nous, là, on veut qu'au Québec, que ce soit électrique, que les chars roulent, puis on va mettre en place plein de politiques pour que les gens s'en aillent là. De la même façon que quand ils ont décidé qu'on roulerait avec des autos à essence, ben à un moment donné, il y a un gouvernement qui a installé des routes avec de l'asphalte, des lumières de rue, des infrastructures, puis il n'a pas demandé à des entreprises privées de payer le bout d'asphalte. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est qu'à un moment donné, si on veut que ça devienne quelque chose de généralisé, puis d'établi, puis qui va rouler avec un certain degré de mise en place standardisée, il va falloir qu'on arrête de demander à plein d'entreprises privées de payer le petit bout, parce que ça freine le développement, puis le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il y en a moins de bornes, ben tout le monde cherche comment qu'on va les financer, puis là, on est en train de gratter des bouts de chandelle pour être capable d'avoir de l'argent pour les installer, les entretenir, alors que ça devrait faire partie d'un plan d'infrastructure. Il n'y a pas personne, la voirie ne demande pas à un provisoire de payer son bout du lampadaire de rue qui est adjacent à son terrain.
T'sais. Non, c'est un fait. Puis c'est, T'sais, à un moment donné, c'est ça, on veut en avoir plus, puis c'est juste normal qu'à un moment donné, les prix augmentent aussi parce qu'il faut que ça se finance. Ça coûte extrêmement cher, une borne de recharge rapide. On en parlait tantôt, c'est quoi, une trentaine de mille, 50 000 $ dépendant
ben,
de la
avec
borne.
Avec des infrastructures, ça monte, ça peut souvent monter entre 50 et 60 000 $ C'est impossible à rentabiliser. Pensez-y, là, le modèle d'affaires, c'est que le commerçant va payer la moitié. Fait que mettons que ça coûte 60 000, le commerçant paye 30 000, mais il va recevoir la moitié des profits. Fait que mettons que toi, tu mets 5 piastres d'électricité là-dedans, là. Ben, c'est le 5 piastres, pas un 5 piastres de profit, là. Ça coûte 5 piastres, mais mettons que l'électricité pour mettre dedans, elle en a coûté 3. Ben là, il reste un 2 piastres de profit, fait que le commerçant fait une piastre, puis Hydro-Québec fait une piastre.
Ouais.
Un investissement de 30 000, là, ça prend 30 000 personnes qui vont aller se recharger là à une piastre avant de rentrer dans l'argent de l'installation de la borne. Et là, on ne calcule même pas les réparations, les entretiens, les mises à jour de logiciels, les bons, etc., etc. Donc, étant donné que ce n'est pas un modèle rentable, il n'y a personne qui veut le faire dans un esprit de faire de l'argent. Les gens le font dans un esprit de « je vais être un bon citoyen un corporatif, je vais faire ma part pour l'environnement, pour le tournant électrique, fait que je vais financer ça. » Des grosses entreprises comme Rona, Saint-Hubert, Métro l'ont fait, mais s'il y a un super beau spot, un endroit que tout le monde voudra en avoir une, mais c'est une petite PME, ils n'auront pas les moyens d'investir un 30 000 $ là juste pour le plaisir de dire « je me suis payé une borne ». Là. Fait qu'il faut penser à un autre modèle, parce que sinon, ça ne marchera jamais. Il n'y a personne qui va le faire. Tu le dis, on l'a dit tantôt, hein, c'est quand c'est dans la poche, hein, la poche des gens qui parlent, ben le commerçant, c'est la même affaire.
Ouais.
La seule affaire qu'il y en a qui font, qui comprennent, c'est que quand les gens se rechargent, ben ils arrêtent, ils débarquent de l'auto, ils vont s'acheter des affaires. Fait que si c'est dans la cour d'un dépanneur, par exemple, ben le dépanneur fait de l'argent sur son sac de chips, ses peanuts, puis sa canette de coke pour son café.
Mm-hmm.
Mais c'est pas sur l'électricité que tu vas acheter dans la borne qui va faire de l'argent. Ben le markup est bien plus gros sur la barre de chocolat que sur le...
Sur l'électricité puis le profit de la borne, ça c'est sûr.
Exact.
Est-ce que tu penses aussi que ça peut être un petit peu une claque d'un dent de la part de l'Auto-Québec, d'Hydro-Québec, pour les gens qui restent branchés sur des bornes puis qui devraient peut-être pas rester branchés sur des bornes rapides?
En fait, quelqu'un qui reste branché puis qui devrait pas, faut comprendre que la borne à charge 10$ de l'heure. Mais même si tu as fini d'être chargé puis tu restes là, tu continues à être chargé 10$ de l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons, que tu avais besoin d'une heure pour te charger, mettons, tu as une grosse batterie, mais que tu restes là 3 heures, bien, tu vas te facturer 3 heures. Donc, dans l'ancien modèle, 30$. Dans le nouveau modèle, 36$.
Ouais.
Si tu avais le moyen de payer 30$, je pense pas que c'est le 36$ qui va changer bien de quoi.
Non.
Moi, en fait, sais-tu quoi? C'est que si on voulait faire ça, ce qui pourrait très bien être fait, c'est... Par les protocoles de communication, là, CHAdeMO puis CSS, tu es capable de détecter le pourcentage de recharge de la batterie. Tu pourrais très bien dire la borne à charge 10$ de l'heure, mais quand tu atteins 90 % ou 95 % ben le taux monte là, à ce moment-là à 20$ de l'heure. T'sais. Fait que là, tu n'as pas intérêt. Ça coûte un prix raisonnable quand tu l'utilises dans une plage d'utilisation raisonnable, mais dès que t'abuses, autrement dit, t'es rendu à 90% et plus, puis tu restes plugué là. Là, le prix monte.
Okay.
Ça serait quelque chose. Et il y a des endroits dans le monde où ça se fait, ça. Et ça, je pense que ça serait quelque chose qui serait intéressant. Ça éviterait que ceux qui ont bien de l'argent, puis souvent, c'est eux autres qui ont des grosses batteries, parce que les grosses batteries, ça coûte cher.
Mm-hmm.
Fait qu'ils ont des grosses autos, puis ils ont bien d'argent. Fait qu'ils restent là. Puis quand ils reviennent chercher leur auto 2 heures ou 3 heures après, puis que toi, t'attends en arrière, puis tu sacs, eux autres, ils disent écoute, ben, là, t'as beau sacré tant que tu veux, là. Moi, tout le temps que j'étais plugué là, ils m'ont chargé, puis je le paye. Fait que vu que je le paye, j'ai le droit de l'utiliser. C'est légalement tout à fait vrai, mais c'est éthiquement tout à fait discutable.
Hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai, ça arrive souvent, on le voit. Même des voitures à essence qui prennent ça comme des stationnements exécutifs, des VIP, même des gens avec des voitures électriques qui se stationnent dans des places pour recharger, qui ne rechargent pas.
C'est le plus insultant. Hein? Il y en a bien qui devraient comprendre, c'est bien eux autres, mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas... Il y a du bon et du moins bon monde un peu partout.
Ouais, c'est ça. Mais il va y avoir des règlements, il va y avoir des amendes qui vont être émises pour ça. Donc,
oui, ça s'en vient. Il y a un projet de loi qui est là, qui n'est toujours pas en place, mais qui vise à permettre, là, un peu comme les stationnements pour handicapés, par exemple, là, qui va permettre aux agents de la PLO, aux policiers, d'émettre des contraventions quand quelqu'un va être stationné dans un endroit réservé pour la recharge de véhicules sans se recharger. Alors que ce soit un auto électrique ou non, ça n'a aucune importance. Quand tu es stationné là puis que tu te recharges pas, ben tu bloques la place à quelqu'un d'autre. Fait que si tu te stationnes là, tu te charges, Puis si tu ne te charges pas, tu te stationnes ailleurs, un point, c'est tout. De la même façon qu'un stationnement handicapé, si tu es handicapé, tu peux être là, mais si tu ne l'es pas, tu n'es pas là, c'est tout. Puis il y a des étiquettes. Parce qu'actuellement, vu que ça ne fait pas partie du code de la sécurité routière, c'est à chacune des villes à mettre ou non en place des politiques pour ça. La ville de Montréal le fait déjà, donner des étiquettes au centre-ville, mais il faut que tu te rends compte, tu as une bande, puis il y a quelqu'un qui est là, puis qui ne te charge pas, tu peux appeler, il y a un numéro, puis ils peuvent venir mettre l'étiquette. Mais le projet de loi, c'est de rendre ça dans le code de sécurité routière. Ça va être applicable partout. Alors là, ça devrait donner un coup de main.
Bon, on va voir ce que ça va donner. Ça aussi, ça va être intéressant à suivre.
Oui, monsieur.
Super, Martin. Donc, on va terminer là-dessus. On va espérer que l'électricité va revenir chez vous rapidement. Si les gens veulent te rejoindre en attendant, comment font-ils cela?
Bien, à soir, il faut qu'ils fassent ça avec des messages, avec des flashlights. Mais le reste du temps, ils peuvent m'envoyer un courriel à martin@aveq.ca ou encore via notre site web www.aveq.ca.
Super, Martin. Merci encore une fois. Puis on se reparle très bientôt.
Ça me fait plaisir. Bonne
merci.
Semaine.
Merci. Bye-bye.
Bye.
Alors, nous, on va faire une petite pause puis on revient tout de suite avec les essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour pour le dernier bloc de l'émission. Ça va être le bloc essai de la semaine. Puis je vais commencer avec mon premier essai qui est le Hyundai Elantra GT, donc la version hatchback de la Hyundai Elantra. L'Hyundai Elantra que j'ai conduit à quelques reprises, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Et la version GT, j'ai eu la chance aussi de l'essayer au Festival des essais parce qu'elle faisait partie des voitures en lice pour gagner le prix de voiture canadienne de l'année. Donc, je l'ai conduit très brièvement là-bas, à peu près 30 minutes. Et puis ensuite, ben, je l'ai réservé chez Hyundai pour l'avoir pendant une semaine. Et finalement, je l'ai eu pendant deux semaines, je l'ai eu pendant tout le temps des fêtes. Donc, c'est un véhicule que je suis allé chercher, je pense que c'est le 12 décembre, et puis je l'ai rapporté le 3 janvier. Donc, c'est vraiment la voiture avec laquelle j'ai fait tous mes déplacements pendant le temps des fêtes. Et j'avoue que c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. Parce que, bon, je l'ai roulée beaucoup. Là. J'ai fait plus que 600-700 km avec, si je me rappelle bien. Pour une consommation qui est, bon, je ne peux pas dire décevante parce que c'est vraiment la température et tout ça qui a été la cause de la consommation ordinaire. J'ai fini à environ 9,4 litres au 100 km, mais il faisait tellement froid que j'étais obligé de démarrer la voiture pour dégeler les fenêtres et tout ça. Et puis, ça fait que la consommation d'essence n'est jamais vraiment bonne dans ce temps-là. Et je l'ai fait pendant deux semaines parce qu'il a fait vraiment froid. C'est les semaines qu'on avait du moins 40 avec le facteur 20 et tout ça. Là. Donc, j'ai réchauffé l'auto assez souvent. Donc, la consommation était pas tellement bonne. Mais dans la vie de tous les jours, là, vous allez obtenir probablement quelque chose de plus proche du 7.8 à 8.4 peut-être, et peut-être mieux que ça, là, si vous faites attention, puis vous conduisez en mode éco. Donc, comme voiture, c'est vraiment joli. Autant que la dernière fois, je disais que la Sonata ressemblait un peu trop à une Fusion, autant que celle-là ne ressemble pas à autre chose. C'est vraiment un style assez unique, et je la trouve vraiment, vraiment jolie. Puis elle a un design assez agressif. L'intérieur, c'est pareil, très bien fini. On a mis des accents rouges un peu partout. J'aurais aimé en avoir plus, par exemple. Je suis peut-être difficile, mais on est allé mettre des accents rouges un peu sur le volant, un peu sur le tableau de bord, un peu où il y a le levier de vitesse. Mais bon, à part de ça, on n'en a pas mis beaucoup. J'en aurais mis un petit peu plus. Ça aurait fait ressortir un peu l'intérieur. Ça aurait été plus joli. Mais déjà, l'intérieur était très bien fini. Là. Moi, j'avais la version avec le moteur 1.6 litres turbo, qui est un moteur assez nerveux. Et puis, j'avais bon le cuir et tout ça à l'intérieur. C'était vraiment très bien. Bien fini. Siège avant, chauffant. Volant chauffant. Puis, c'est vraiment intéressant parce que si vous regardez l'Elantra GT en totalité, même le modèle de base qui commence à 20 449 $, vous avez les sièges avant et le volant chauffant, ce qui est quand même très intéressant là, pour une voiture de base. On a ça quand on regarde certaines voitures un peu plus chères, chez d'autres constructeurs où on n'a même pas le volant chauffant ou les sièges chauffants, puis on paye plus que ça. Là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que Hyundai a décidé de vraiment démocratiser les sièges avant chauffants et le volant chauffant en disant ben on le met de base dans ces modèles-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que un coup qu'on a goûté au siège chauffant et au volant chauffant, c'est difficile de ne pas l'avoir. J'avoue, quand je retombe dans mon vieux Ford Escape sans volant chauffant et sans siège chauffant, Je trouve ça un peu froid des fois. C'est peut-être l'âge, mais c'est quelque chose qui me manque. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que Hyundai ont décidé de mettre ça dans leur voiture de série. Je trouve ça vraiment bien. Donc, côté espace, c'est très bien. Côté dégagement là, pour les passagers à l'avant et à l'arrière, c'est quand même très bien. C'est sûr, on n'embarque pas trois adultes à l'arrière, là, ça serait peut-être un peu serré. Deux adultes et un enfant, ça passe très bien. Ou même trois adultes pour un court trajet, il n'y a vraiment pas de problème. Puis à l'avant, on est confortable, les sièges sont ajustables, on est bien dans cet habitacle-là. En plus, la version que j'avais avait un beau toit panoramique, ce qui donne une très belle allure aux voitures. Là. J'aime beaucoup quand on prend le temps de mettre un toit panoramique. C'est très bien. C'est sûr que quand le toit est gelé à grandeur avec un pouce de glace, ça, bon, c'est moins beau, ça sert un peu moins à quelque chose, mais l'été, c'est vraiment magnifique. On a l'impression d'avoir un cockpit plus ouvert que quand on a juste un toit fermé ou un petit toit ouvrant des fois. Les petits toits ouvrants, ça n'a pas vraiment d'utilité. C'est le fun, là, mais c'est pas vraiment utile. Tandis qu'un toit panoramique qu'on peut ouvrir quand même assez grand, c'est quand même plus intéressant. C'est pas une convertible, mais c'est quand même plus intéressant. Côté coffre, j'ai trouvé que c'était très bien. L'Elantra, la 4 portes, là, la version avec le coffre régulier, a quand même un coffre qui est assez grand, assez logeable. On peut mettre, si vous allez faire l'épicerie, vous avez de la place en masse là-dedans. Mais le hatchback offre la possibilité de mettre des objets un peu plus hauts. Peut-être un peu moins profond, faudrait que je compare les deux l'un à côté de l'autre, mais ça me semblait moins profond. Donc, l'espace entre la fin du coffre et le siège semblait un peu moins grand, mais pour le reste, on peut mettre beaucoup d'objets. J'ai réussi à mettre, mon fils pour Noël a reçu un but de hockey. Il voulait avoir un but de hockey, et puis il était dans une boîte qui était quand même assez grosse, assez épaisse, puis j'ai réussi à la sortir puis la mettre carrée dans le fond du coffre puis plus des sacs par-dessus. Donc, c'est quand même assez grand. J'ai bien aimé. Fait que c'est une voiture qui est faite pour la famille. Si vous avez des choses à traîner, de l'épicerie à faire, du magasinage et tout ça, pas nécessairement du camping, là, mais vous pouvez quand même mettre assez de choses dans le coffre pour vraiment vous mettre un rack de toit, même si vous voulez. Mais c'est une voiture qui est le fun, qui a de la gueule. Puis dans la version turbo, là, avec le petit moteur 1.6 litres, ça se déplace. On a aussi un mode manuel si ça vous intéresse. C'est rare que c'est utilisé. La version avec le moteur 2 litres a une boîte manuelle à 6 rapports de base. Sinon, vous pouvez avoir une transmission automatique à 6 rapports. Si on va dans la version avec le moteur 1.6 turbo, ben là, on a un moteur, comme je disais, 4 cylindres 1.6 litres. On a des jantes de 18 pouces et puis on a un échappement double qui donne une allure un peu plus sportive. Puis on a une boîte automatique à 7 rapports. On peut aussi avoir une boîte manuelle à 6 rapports dans la version sport, qui doit être assez intéressant. On m'avait offert la version manuelle ou la version automatique. J'ai pris la version automatique un peu de reculons parce que j'aime beaucoup conduire manuel, mais je me disais pour 2 semaines dans la neige, faire beaucoup de kilométrage, puis surtout, tu sais, à Noël, on part de bonne heure, des fois on revient tard, puis ça me tentait pas nécessairement de me casser la tête en revenant là, à changer des vitesses. Je voulais faire mon petit paresseux. Donc, j'ai décidé de prendre la version automatique. En tant que telle, là, c'est vraiment une voiture qui est amusante, qui est jolie, qui est confortable. Une très bonne hatchback. La version que j'avais, c'était la version sport avec tous les gadgets possibles et imaginables. On parle d'une voiture à 30 499 $, donc presque 30 500 finalement. Il y a des modèles un peu moins chers. La version en boîte manuelle sport avec le même moteur, là, 26 999. Donc, vous pouvez faire votre choix, soit boîte automatique, boîte manuelle. Si c'est une voiture qui vous intéresse, je vous conseille d'aller la voir. Moi, j'ai bien aimé. Là. J'aime beaucoup les hatchbacks. Puis cette voiture-là, je l'ai beaucoup appréciée. C'était amusant à conduire. Comme deuxième essai, je vais vous parler de la Toyota Camry, la toute nouvelle Toyota Camry. Voiture que j'ai été chercher la même journée que j'ai été reporté la Hyundai Elantra GT. Donc, je l'ai eu dans la semaine du 3 janvier. Et puis, c'est une voiture que j'ai aussi beaucoup appréciée. Malheureusement, c'est une voiture dont je n'ai pas mis beaucoup de kilomètres sur le compteur. Je ne l'ai pas conduit beaucoup parce que, bon, au travail, cette semaine-là, j'étais seul dans mon groupe. Je faisais beaucoup d'heures et j'ai beaucoup travaillé de la maison. Donc, malheureusement, là, j'ai pas conduit beaucoup la voiture. Mais à chaque fois que je l'ai conduit, j'ai beaucoup apprécié, par exemple. C'est une voiture qui est confortable. C'est une voiture qui est jolie. Je dois avouer, là, on disait souvent à la blague que, bon, une des voitures les plus anonymes sur le marché, c'était bien la Toyota Camry. C'était sans couleur et sans saveur et plutôt beige. Ben, la nouvelle Camry, c'est vraiment le contraire, là. Elle a vraiment un design inspiré, des lignes agressives. C'est une voiture qui est vraiment, vraiment magnifique. La première fois que je l'ai conduite, c'est au Festival des essais de la Jacques. Puis j'avoue que déjà là, je trouvais que la voiture était très bien. Là, j'avais conduit, par exemple, la version la plus équipée que la Camry offre, ce qui n'était pas le cas dans la version que j'ai eue pour mon essai. Là. J'avais la version LE, si je me rappelle bien, c'est ça, la Camry LE. Siège en tissu, pas siège de cuir. Siège chauffant, mais pas de volant chauffant. Quand je vous parlais tantôt que c'est un peu décevant parfois que certaines compagnies ne mettent pas le volant chauffant de base dans une voiture, ben c'est un peu ça pour Toyota. J'aurais aimé avoir le volant chauffant de série dans la voiture qui est vraiment une des voitures les plus vendues chez Toyota, si pas la voiture la plus vendue chez Toyota, là, j'aurais aimé ça avoir ça. Pour le reste, par exemple, c'est une voiture qui est extrêmement bien construite, silencieuse, confortable, quand même amusante à conduire, très très stable sur la route. C'est une voiture que j'ai bien appréciée. On a un moteur 4 cylindres de 2,5 litres et une boîte automatique à 8 rapports. Donc une boîte automatique qui travaille bien. J'ai jamais senti que, bon, j'étais toujours en train de changer de vitesse ou que on avait ça à un moment donné sur les transmissions chez Chrysler, là, où on savait pas trop où la transmission allait arrêter de changer de vitesse. C'était toujours en train de changer de rapport, puis ça venait un peu tannant. Dans la Camry, j'ai vraiment pas vu ça. C'est une transmission qui travaille vraiment très bien. Pas de coup quand ça change de vitesse, vraiment stable, vraiment, là, vraiment une transmission qui faisait très bien le travail. Roue de 17 pouces. Voiture qui est, comme je disais, très jolie. Sur le coup, j'ai cru qu'elle était noire, mais pour de vrai, c'était une voiture qui était c'était brun, c'est graphite métallisé. Donc, c'est un peu comme un brun qui paraît noir quand il y a moins d'éclairage. Puis, surtout qu'on la sort au soleil, il y a du brun qui ressort. C'est une voiture qui était vraiment jolie. Je dirais pas que c'est la plus belle couleur pour la Camry. Je pense qu'elle ressort plus dans une couleur comme un bleu ou un blanc ou un rouge. Mais c'est quand même une couleur que j'ai trouvé jolie. Puis, franchement, plus je vois de voitures qui ont une espèce de teinte de brun, plus j'aime ça. Il y a vraiment des beaux bruns dans le domaine de l'automobile maintenant. Chez Kia, ils ont un brun qui est très joli aussi. Donc, c'est une voiture que j'ai trouvé aussi jolie. Système de divertissement. Bon, c'est très bien. Je me suis pas battu avec pour connecter mon téléphone, pour le Bluetooth et tout ça. C'était facile à utiliser. C'était intuitif. J'ai trouvé que c'est pas le meilleur sur le marché, mais c'est loin d'être le pire. J'ai eu aucun problème avec ça pour connecter, faire des appels et tout ça. Ça a été très bien. Côté coffre, le coffre est très grand. Beaucoup d'espace. C'est une grande berline, donc c'est ce qu'on s'attend d'avoir d'une voiture comme ça, là. Un coffre qui est assez logeable. Et c'est le cas aussi dans cette voiture-là. Côté prix, ben la voiture que j'avais en essai, 31 832. C'est sûr, si vous prenez les versions plus équipées, vous pouvez aller à 40 000 et plus là, dans la Camry. Mais cette version-là, c'était quand même assez bien équipé. On avait même un chargeur, mon téléphone ne supporte pas, il y avait un chargeur qu'on appelle Qi, qui peut faire de la recharge sans fil si votre téléphone est compatible. Donc, si vous avez un téléphone un peu comme un Galaxy S6, S7 ou S8, on la recharge, qu'on appelle la recharge par induction. Bien, vous pouvez déposer votre téléphone dans cet espace-là et pendant que vous roulez, sans avoir besoin de le brancher, ça va aussi recharger votre téléphone. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Donc, c'est pas mal ça. C'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. La nouvelle Camry, franchement, là, j'aurais aucun problème de la recommander si vous cherchez une grande berline. Là, franchement, Toyota fait vraiment du chemin, a fait vraiment un beau travail de design sur cette voiture-là. C'est vraiment incroyable. Franchement, là, c'est le jour et la nuit entre ce modèle-là et l'ancien modèle. Puis c'est toujours le confort. Puis là, on parle, tu sais, fiabilité aussi. C'est une Toyota, donc on s'attend à ce que ça soit fiable à long terme. Donc, ça serait vraiment dans mes choix. Je sais que les journalistes ont choisi la Honda Accord par-dessus la Toyota Camry. Je n'ai pas conduit la Honda Accord, donc je ne peux pas la comparer. Mais franchement, je crois que la Camry méritait peut-être un meilleur sort là, dans ce créneau-là. J'aurais pensé qu'elle aurait gagné, mais je me suis trompé. Donc, c'est la Honda Accord qui a gagné. Mais Camry, si vous pensiez aller vous en chercher une, vous avez ma bénédiction. Donc, je vais terminer là-dessus aujourd'hui. Si vous voulez me rejoindre, ben, il y a sur Twitter, @Calazormo. Vous pouvez nous écrire à info@saroulradio.com. C'est l'adresse où moi et Marc recevons vos courriels. On apprécie recevoir des courriels de vous, donc si ça vous tente de nous écrire, allez-y. Il y a de bonnes chances qu'on vous réponde si vous avez des questions, peut-être sur l'émission, peut-être aussi en courriel. Là, ça dépend toujours de comment les choses se passent. Si vous voulez rejoindre Marc, je vous dirais, vous pouvez aller sur son blog marcbouchard.ca et sa page Facebook. Il y a aussi un compte Twitter. Malheureusement, moi, je ne les connais pas par cœur, mais si ça vous tente, prenez 2 secondes et allez écrire un petit message à Marc. Je suis certain qu'il va apprécier. Et puis, si vous voulez nous écouter, ben, à travers iTunes, c'est possible. À travers Google Play, c'est possible. On est aussi disponible sur 3 radios web, sportradio.ca, Radio H2O et Radio Média Plus. Donc, merci encore une fois d'avoir écouté cette émission cette semaine. Je suis vraiment désolé d'avoir été seul. J'aurais préféré être avec Marc. Je sais qu'une personne, des fois, c'est pas toujours évident. J'étais pas supposé enregistrer une émission, mais j'ai pas voulu vous laisser tomber cette semaine. J'espère que vous avez quand même apprécié. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et j'espère que Marc sera de retour avec moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Bye.